RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Bonsoir à tous. Si vous écoutiez hier, vous avez entendu qu'on avait essayé de voir quelles étaient les qualités d'un bon amant. Eh ben, je vous propose l'inverse ce soir. Quelles sont les qualités d'une bonne maîtresse, avec pour maître, si je puis dire, Michel Schumann, qui est notre homme de ce soir. Et puis, en tant que femme, nous pourrons peut-être donner notre avis. D'abord parce que j'ai souvent écouté les confidences des hommes et donc j'ai la prétention de savoir ce qu'ils aiment. Et puis, j'écoute aussi beaucoup les hommes qui nous appellent tous les jours. Et comme Ariane est là également à mes côtés ce soir, elle aussi, elle vous écoute tous les jours, donc elle pourra donner son avis. Quant à notre quatrième invité, c'est Bénédicte Martin, une féministe qui adore les hommes et qui veut toujours leur faire plaisir. J'ai envie de dire une bonne maîtresse en d'autres termes.
J'espère.
Voilà. Mais avant de vous présenter nos invités, je vais vous donner aussi tous les sujets de ce soir. Donc, on a compris, le sujet, c'est les qualités d'une bonne maîtresse. En love coaching, on va voir quel serait le repas idéal pour un repas en amoureux. Ensuite, on a testé pour vous le fameux cock ring vibrant. Et en lecture érotique, on va parler de la poésie. Je vais vous lire un poème qui a été écrit par Pierre Delanoë à l'époque où nous avions fait ensemble ce livre, La poésie dans le boudoir. Voilà, le Love Conseil, l'amour durant les règles, oui, non, ce sera le Love Conseil de ce soir. Alors, Ariane,
oui.
Est-ce qu'on vous présente encore? Tout le monde vous connaît maintenant.
Oh, j'en suis pas sûre, vous pouvez me présenter, allez-y, faites-moi plaisir.
Donc, Ariane, vous l'écoutez toutes les après-midi dans l'émission L'amour et vous, et c'est elle qui nous raconte des bêtises dans ce fameux fil d'Ariane.
Oui, mais avoue que ça vous fait un petit peu sourire quand même.
Ça me fait souvent beaucoup sourire, parfois un peu hurler quand même, parce que c'est je sais pas où vous allez chercher certains trucs.
C'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde.
Et puis, ça doit pas être simple d'ailleurs, tous les jours de trouver quelque chose.
Mais je vais vous faire une confidence, souvent c'est à la dernière minute. En fait, j'arrive, l'émission commence, il est 14h, et en fait j'ai rien
Comment
du
ça
tout.
Vous n'avez pas préparé l'émission
Non, mais
quelle est cette transition professionnelle?
Je me suis surtout soucier que tout le reste tourne bien. Et au moment où j'arrive, je me dis, mince, j'ai toujours pas trouvé de sujet. C'est souvent vous, sans vous en rendre compte, qui m'inspirez. Je me dis, ah tiens, elle parle de ça aujourd'hui. En effet, le flirt, par exemple, je ne sais pas. Tiens, alors, qu'est-ce qu'il y a comme baiser étrange? Ah oui, le record du plus long baiser, ah oui. Et puis voilà, et puis ça, de fil en aiguille, on arrive à un sujet, à l'élargir, sans mauvais jeu de mots, et arriver à l'antenne, parfois un peu en impro, c'est vrai, mais vous me donnez le change. Donc, finalement, ça se passe toujours très bien.
C'est toujours un moment sympathique et nos invités, souvent d'ailleurs, ça les fait beaucoup sourire et c'est aussi le propos de ce fil d'Ariane. Bénédicte Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu, je sais dire bonsoir maintenant.
Oui.
Vous êtes l'auteur de ce livre La Femme aux éditions des Équateurs, dans lequel vous revendiquez votre statut de femme sexy, qui plaît aux hommes, qui aime les hommes et vous en avez un petit peu marre de ces féministes qui veulent toutes les castrer.
Exactement.
Et notre homme, justement, ce soir, qui donc ne risque rien, vous ne serez pas castré, Michel Schumann, ça c'est déjà une bonne nouvelle.
Non, mais depuis le temps qu'on se connaît, ça serait déjà fait si ça avait déjà arrivé.
Oh, moi, je ne suis pas castratrice, je crois pas. Alors, Michel Schumann, vous êtes chirurgien, urologue, andrologue, sexologue. Et puis, vous êtes surtout aussi l'auteur de Mieux faire l'amour à un homme aux éditions Presse du Châtelet. Moi, je me souviens quand vous aviez préparé ce livre, vous m'aviez d'ailleurs demandé s'il n'y avait pas. Si c'était à peu près cohérent tout ce que vous aviez écrit, et c'est un livre qui est tout à fait bien pour certaines femmes qui ont peut-être envie d'améliorer leur technique.
Leur relation, oui.
Donc c'est notre sujet ce soir, une bonne maîtresse. Voilà.
Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une fille naturelle. En fait, dès qu'on commence à se dire, j'ai envie d'être top, être une super maîtresse, c'est-à-dire faire comme ci ou comme ça, une fellation faite de telle manière, dans telle position, on foire le truc. Et ça fait souvent l'effet inverse. Alors que si on se dit qu'on va écouter spontanément ses pulsions, ses envies, en fait, commencer, peut-être égoïstement, mais pas tant que ça finalement, mais commencer à vouloir se faire plaisir à soi, à nous, la femme, souvent ça fait écho chez l'homme et ça lui fait plaisir aussi. Et pour moi, c'est d'abord ça, d'abord et avant
donc,
tout,
on pourrait,
être naturel.
On pourrait dire qu'il faut déjà que la femme soit libérée.
Libérée, ouais.
Oui, mais peut-être parce que vous êtes douée, parce que vous savez...
Oui, je vous le confirme.
Voilà. Mais pour une femme en difficulté, c'est pas si simple.
Oui, mais si elle accepte de s'écouter, sans se poser trop de questions, essayer de faire abstraction de toutes sortes de questions angoissantes.
Vous êtes en train de nous décrire le lâcher prise.
Voilà, ce que prend Brigitte au quotidien.
Oui, moi je pense qu'une bonne maîtresse, c'est une femme qui va parler vraiment le langage du corps, un langage voilà qu'on n'entend pas, mais qui se passe donc par les caresses.
La sensualité.
Voilà, et puis de fil en aiguille, comme dans une discussion, vraiment, voilà, chaque partenaire en fait rajoute un petit peu sa pierre ou sa caresse à l'acte. Donc je pense que c'est vraiment être à l'écoute de soi et aussi à l'écoute de l'autre et dialoguer comme ça. Quoi.
Mais est-ce qu'on peut pas dire déjà qu'une bonne maîtresse c'est une femme qui aime faire l'amour?
Ah oui, avant tout, je pense.
Ah bah, il faut au moins ça.
Si elle aime pas, évidemment, ça va être compliqué.
Qu'elle fasse la cuisine, et puis on n'en parle plus.
Maîtresse de maison, ça c'est différent.
Ça dépend ce que vous entendez par maîtresse. Est-ce que c'est la relation extra-conjugale ou est-ce que c'est la femme qui fait la maîtresse?
L'un n'empêche pas l'autre.
Ouais. Non, mais c'était une relation qui peut être un petit peu paradoxale, parce que c'est soit c'est la maîtresse, celle qui va faire oublier la femme, justement la femme du quotidien, qui a un rôle qui n'est pas forcément passionnant, pas plus que le rôle de l'homme. Ou alors est-ce que c'est la femme la femme maîtresse exceptionnelle ou est-ce que c'est la femme qu'on va chercher dehors parce qu'on ne l'a pas à la maison?
Non, mais sans être une maîtresse pareil. Exceptionnelle, quel conseil on peut déjà donner pour qu'on soit capable de rendre un homme bien au lit, quoi?
C'est une question de rythme aussi, j'ai remarqué, ne pas se précipiter, que souvent dans le feu de l'action, on a envie de se jeter sur l'homme ou l'homme sur la femme. Et si on prend le soin de décortiquer chacun des mouvements, des caresses, et que ça soit dans une certaine longueur, une lascivité, eh ben ça prend une dimension encore plus jouissive, je trouve. Et peut-être que c'est là aussi un des secrets du plaisir et de la bonne maîtresse, c'est prendre son temps, prendre le temps de bien ressentir.
Mais je pense que de toute façon, on est meilleur quand on se connaît un peu que le premier soir. Quand
ça c'est certain. Oui. Plus on fait l'amour avec un partenaire, plus il y a coordination et plus
c'est un peu
plus
comme la danse, on danse mieux avec un partenaire habituel.
Alors après, il faut de l'imagination. Si on a toujours le même partenaire ou la même partenaire, il faut de l'imagination. Il faut recréer en permanence. Parce que si on fait toujours la même chose, c'est un peu une lassitude.
Certes, mais je pense qu'il faut un peu des deux aussi. Parfois dans une routine et puis aussi quelquefois faire tenter du nouveau. Mais oui, je pense que néanmoins la bonne maîtresse passe par quelque chose voilà de nouveau aussi.
Quand elle vous regarde comme ça, Bénédicte, Michel Schumann, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il y a... Alors, j'allais poser une question à Bénédicte.
Vous ne trouvez pas qu'elle a un côté gaïcha, Bénédicte?
Un petit peu. Moi, c'est avec quelques origines asiatiques.
Ah oui. Le canton, mais elles sont passées d'abord par l'Amérique centrale.
Mais voilà. Ce qui est joli, c'est ce qu'il en reste. Vous n'avez pas tout oublié.
Mais ça se lit sur le visage, là, vous qui êtes un homme, apparemment. Est-ce que ça se lit sur le visage?
Je confirme, Michel Schumann est un homme.
Ça se lit sur le visage d'une femme qu'elle est plus ou moins bonne maîtresse. Est-ce qu'on peut se dire, tiens, elle, Brigitte, Bénédicte, Ariane, ont l'air de bonne ou mauvaise maîtresse?
Vous avez l'œil qui rit déjà. L'œil qui rit ou l'œil séduisant, le regard.
Femme qui rit à moitié dans son lit, ça marche pas.
Donc la tête sous l'oreiller, c'est pas bon.
Oui, c'est ça. On a le visage ouvert la joie et la jouissance.
Mais est-ce que vous pensez, j'essayais de vous poser une question, mais c'est difficile parce que là, dans le feu des conversations, est-ce que vous pensez que la mise en scène est importante pour une bonne maîtresse?
Je pense que ça contribue fortement au plaisir et à l'engouement aussi du partenaire. Moi, personnellement, j'aime bien faire des mises en scène. Voilà, j'aime bien, ne serait-ce que ce soit vraiment des coussins, des bougies, ou même parfois, vous parliez de geisha, mais ça m'est déjà arrivé de me déguiser un petit peu, quelquefois, en étant effectivement une geisha, ou plutôt un animal, une chose comme ça. Je suis extrêmement joueuse comme ça, et...
Donc le choix du lieu, le choix du moment, le choix des couleurs, le choix du repas, les parfums.
Je pense que il faut pas un parfum trop capiteux, il faut pas manger trop lourdement.
Pas trop boire.
Exactement.
Mais finalement, contrairement à ce qu'on croit, c'est souvent la femme qui provoque les changements, les surprises plus que l'homme, il me semble. L'homme est un très bon suiveur, mais c'est plutôt moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt à la femme d'avoir des initiatives. Elle a plus d'imagination, je trouve. dans ce que j'entends, hein, encore une fois.
Peut-être, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas.
Moi, c'est vrai qu'un homme ne m'a jamais surpris. C'est toujours moi qui ai pris les devants pour une mise en scène.
Après, ils peuvent commencer à nous surprendre, mais ils attendent en effet, Brigitte, que ce soit nous qui
l'élément
soyons.
Exactement, le premier pas.
Créer la situation. Vous parlez de scénario à l'instant, c'est vraiment ça. On met dans une situation et après, il peut jouer de cette situation-là pour être inventif, etc.
Mais il me semble. En tout cas, je crois qu'on peut décerner le diplôme de la bonne maîtresse à Bénédicte Martin.
Ça, c'était déjà fait avant.
Je crois, il n'y a pas de doute. Et puis il existe de plus en plus d'addictions, ça vous le savez si vous écoutez régulièrement l'émission. C'est loin de réussir à s'en sortir seul. Nous étions avec Michel Reynaud et il nous avait livré quelques clés justement pour y parvenir.
RMC, et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.
Les addictions, c'est impliqué dans un mort sur cinq, hein, plus de 120 000 morts par an sur 600 000, et dans un fait de délinquance sur deux. La moitié de l'activité de la police et de la justice est en lien avec les addictions. Et puis il y a surtout une explosion des formes nouvelles d'addiction, puisque c'est très lié au contexte social et économique, donc les consommations d'alcool chez les jeunes, toutes les addictions dont on parle, favorisées par Internet, donc c'est un problème qui n'est, nous sommes nombreux à le penser, pas pris à son juste niveau par la société et par les pouvoirs publics.
Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut déjà se réunir, rassembler
ce qu'on est en train de faire dans la Fondation avec les associations de patients, les associations de familles, les victimes, elles sont nombreuses. Hein. Il y a le cancer, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a peu d'actions à partir du cancer sur le déterminant principales que sont les addictions, les violences faites aux femmes, les violences routières. Donc quand on rassemble tout ça, quand on voit la souffrance des sujets qui sont addicts, de leurs proches et de la société, c'est un problème majeur. Et nous ne nous sommes pas donné les moyens d'agir de façon efficace et pragmatique pour diminuer la casse.
Oui, moi j'ai le souvenir, les premières fois où on parlait d'addiction dans cette émission, c'était peut-être il y a 7-8 ans, et on avait l'impression qu'on parlait de quelque chose qui ne concerne que l'autre, quoi. Enfin, c'était assez mal... c'était presque pris un peu à la rigolade.
Le problème, c'est qu'il faut bien définir. C'est-à-dire que si vous y rajoutez le tabac, il n'y a pas une famille en France qui ne soit pas touchée. Le tabac étant une addiction extrêmement grave sur le plan de la santé. Les autres sont graves sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan du fonctionnement social.
L'alcool aussi est grave sur le plan de la santé.
L'alcool est grave sur le plan de la santé, un tout petit peu moins que le tabac, mais avec des pathologies qui entraînent des comportements
de violence
et antisociaux et de détérioration mentale qui sont beaucoup plus frappants et beaucoup plus coûteux socialement que n'est le tabac.
Oui, ou d'accidents sur la route, alors que le tabac, on peut fumer et conduire
En général, on se fait du mal qu'à soi, à l'exception du tabagisme passif qui reste peu important.
Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour.
Je suis très heureuse de pouvoir vous exprimer de vive voix le plaisir que j'ai à écouter votre émission. Elle m'a beaucoup aidée souvent, donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager une histoire positive.
Bon, écoutez, très bien, on vous écoute.
Oui. Positive. Donc en fait, début janvier, j'ai reçu un texto de bonne année d'un numéro inconnu. Donc j'ai répondu en demandant qui c'était. Et donc la personne me répond en me disant mais si on a travaillé ensemble à telle occasion. Je fais non, c'est pas possible, ce n'est pas moi, c'est une erreur.
Donc c'était bien une erreur, c'est quelqu'un qui vous avait envoyé un SMS par erreur.
Alors voilà, sa réponse était une erreur. Mais bon, dans un petit coin de ma tête, je me disais c'est peut-être une blague, c'est peut-être quelqu'un que je connaissais avant, qui a gardé mon numéro, parce que j'étais partie à l'étranger pendant quelques mois, donc tout en gardant la ligne, mais en ne l'utilisant pas. Donc bon, j'avais quand même un petit doute dans un coin de ma tête. Et puis, on a continué à échanger des SMS. Et donc au final, pour me rendre compte que, a priori, on ne se connaissait pas. Mais la conversation était...
Enfin, vous commenciez à vous connaître, visiblement, à force.
Oui, et à avoir des atomes crochus, à tel point qu'on a, pendant pratiquement deux nuits, en fait. On a conversé par SMS et c'était très intéressant. Vraiment beaucoup de sujets abordés, à apprendre, enfin se poser des questions l'un l'autre, etc.
C'est fastidieux quand même d'échanger par SMS pendant toute une nuit, non ?
Il faut chacun a son temps d'apprivoisement et je crois qu'il faut se faire connaissance avant de pouvoir aller un peu plus loin. Et je pense que si c'est comme ça que ça doit passer, c'est très bien aussi.
Oui, bien sûr. Mais c'est long, SMS à envoyer.
J'aime bien l'écrit.
Oui, voilà.
J'aime bien l'écrit. Il écrivait très bien.
Oui.
Et donc c'était stimulant, c'était bon, il y avait un petit jeu de séduction qui s'est petit à petit instauré aussi, hein, donc c'était plaisant. mais on n'a pas eu envie de se parler. Au départ, donc il m'a dit tu es tellement gentil, sympathique que je t'inviterais bien à prendre un verre. Et là je me suis dit non. C'est quelqu'un qui me connaît, parce que s'il me dit qu'il veut m'inviter à prendre un verre, c'est que c'est, pour lui, on est proche géographiquement. Donc j'ai prétendu que j'habitais à presque 1000 kilomètres de là. Et ça n'a pas empêché de continuer quand même. Donc la nuit d'après, je lui ai avoué que je n'habitais pas à 1000 kilomètres, mais beaucoup plus près. Et du coup, on s'est rencontrés assez vite après ces deux nuits d'échange par texto. Et en fait, on s'est plu. Ça, pour moi, c'était... je peux dire que c'est allé vite. Hein. Mais bon, il m'a offert la plus belle nuit d'amour qu'on ait pu m'offrir. C'était vraiment extraordinaire. Bon, j'avais un petit peu mis le paquet aussi, peut-être, parce que j'étais tellement dans... Dans cette euphorie, je pense qu'après avoir pris quelques précautions quand même, parce que il est venu chez moi. Mmh. Et donc je lui avais demandé des garanties sur sa personne. Il a accepté de le faire. Donc bon, je donne peut-être pas de détails, mais ça m'a rassurée. Et du coup, j'ai mis en place un petit scénario.
Oui, parce qu'a priori, c'est pas très prudent hein, de faire venir un inconnu chez vous, hein, je le signale. Enfin, j'espère que vous aviez pris les garanties qu'il fallait.
Oui, tout à fait. Je suis lucide, j'ai la tête sur les épaules. Mais c'est vrai que j'étais quand même happée par cette histoire. C'était comme un cadeau de la vie que je recevais, surtout en plus dans une période qui était pas forcément évidente dans ma vie à ce moment-là. Mm-hmm. Mais du coup, j'étais vraiment pleinement heureuse de ce qui se passait et j'ai pu laisser libre cours à ma créativité et une sorte de fantasme qui trottait dans ma tête depuis quelques années.
Oui, faire venir un inconnu chez vous, finalement, c'est...
Alors, le fantasme était,
précisez,
au-delà de ça.
Préciser le fantasme ou vous pouvez le faire ?
Oui, je peux. Alors, je ne me rappelle plus si c'était dans une lecture ou dans votre émission, Brigitte, mais c'était en fait de faire l'amour avec quelqu'un sans le voir.
Ah oui, oui.
Mmh. Alors, je me rappelle plus exactement. Mais donc, du coup, de ma porte à ma chambre, j'ai fait tout un parcours de petites bougies, sauf plat. Et à ma porte, j'avais déposé un foulard pour qu'il puisse se bander les yeux avec un petit mot en disant que s'il le souhaitait, il pouvait se bander les yeux. Et moi, de l'autre côté, j'avais mes yeux bandés. Et en fait, bon, voilà.
Fait l'amour sans vous voir.
Alors non, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'en fait, j'avais pas pensé au fait que bah, finalement, il ne connaissait pas les lieux, donc c'était pas du tout pratique.
Ah oui, il se cognait partout, pauvre.
J'ai été rattrapée par la réalité quand même. Donc, on s'est quand même découvert à tâtons pendant un moment.
Oui.
C'était très excitant. Mais bon, après, on a fait tomber le foulard. Mais c'était quand même magnifique. Et donc, depuis, bah, ça dure sur ce mode-là.
Oui, bah, ça fait un mois pratiquement que vous vous connaissez, finalement.
Voilà.
Même pas, d'ailleurs,
voilà.
Parce que vous n'êtes pas rencontrés tout de suite. Mais est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire ? Est-ce que c'est vraiment une erreur, le premier SMS qu'il vous avait envoyé ?
Tout à fait.
Ah oui,
c'est, c'est vraiment une chance. Alors
c'est fabuleux comme
histoire. Mais il a eu doublement de la chance puisque vous étiez disponible. Comme vous dites, vous passiez une période difficile parce que vous auriez été parfaitement heureuse en amour à ce moment-là. Vous n'auriez pas répondu au SMS.
Mais tout
à fait. Donc ça tombe très bien.
C'est pour ça que j'utilise cette expression de cadeau de la vie.
Bien sûr. Mais vous avez su le saisir. Dans... Vous avez su le saisir aussi ce cadeau, parce que au fond, on peut appeler ça de la chance. Et puis moi, je dirais que c'est aussi la capacité à saisir les belles opportunités qui se présentent à nous. Hein.
Et puis à en faire quelque chose qui prend sens dans votre histoire, puisque vous jouez des fantasmes. Et je suppose que c'est une façon amusante de commencer une relation, et qu'elle peut continuer de cette manière ludique. On vous le souhaite en tout cas.
On s'en donne les moyens, en tout cas.
J'ai l'impression. Bah, écoutez, c'est une jolie histoire. Ça pourrait être le début d'un film. Et c'est vraiment... c'est la vie. Voilà. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est entendre vos histoires qui, parfois, ressemblent à des films. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous.
Avec plaisir.
Et justement, est-ce que les bonnes maîtresses aiment le cockring vibrant? En tout cas, on l'a testé pour vous et on en parle dans un instant.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lae Night Show.
Avec ce soir, Bénédicte Martin qui est avec nous, Ariane et notre sexologue Michel Schumann qui, je l'espère, d'ici la fin de l'émission, nous racontera une ou deux petites histoires drôles dont il a le secret. Puisqu'il faut faire rire les femmes, Michel Schumann, surtout ce soir, ne vous en privez pas. Alors on va parler du cockring vibrant. C'est un sextoy, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, hein. C'est une sorte d'anneau qu'on pose à la base de la verge et qui a un petit moteur vibrant et qui donc a priori à la fois fait vibrer le pénis et également le clitoris, voilà. Est-ce que qui est-ce qui veut en commencer à donner son avis?
Ah ben je connais pas, mais je vais bien essayer.
Vous connaissez pas le cockring vibrant?
En antenne.
Non mais c'est le petit joueur Michel.
Vous avez jamais vu de...
Non, c'est parce que c'est... Enfin, un cockring, si, mais un cockring vibrant, non.
Avec une petite... Il y a une toute petite bosse, si je peux dire.
Moi, je n'étais resté au diapason, mais enfin, si vous pouvez m'en prêter un.
C'est dommage, parce que j'en ai pas sous la main, j'aurais dû en apporter un.
Ah, c'est pas sous la main qu'on les met, d'après ce que j'ai compris.
Non, c'est pas sous la main, c'est vrai, je vous confirme. Et puis, parfois même, il y a un cockring avec un compteur. Ce qui permet de compter le nombre de va-et-vient durant le coït.
Ah, ça calcule vos performances.
Ça, c'est vachement bien pour évaluer les éjaculations rapides.
Bah oui.
Ah, vous me donnez des idées, là, on peut faire une publication.
Oui. Ça, c'est promis.
Pour une fois, je rigole pas.
C'est promis, on vous en procurera un dans notre mal de jouets qui déborde.
La mal à mal.
De jouets vibrants. On vous trouvera ça. Alors, en tout cas, Ariane, vous avez l'air d'avoir envie de donner votre avis. On vous écoute. Alors,
a priori, je suis pas très fan de ce genre d'objet. Quand même dire juste les tout petits avantages, parce qu'il y en a. Ça maintient l'érection, c'est le principe du cockring, et ça fait vibrer son clitoris. Si on est clitoridienne, c'est super. Bon, voilà. Mais techniquement, il y a plusieurs petits problèmes. Le premier, c'est au moment où on enfile l'engin. Moi, ça casse un peu le truc. Enfin, si on est dans le feu de l'action et que tout d'un coup, on dit « Attends, je vais te distraire et je vais mettre ça parce que je suis sûre que tu auras encore plus de plaisir », moi, ça va casser mon désir, pour le coup.
Deuxième... En tout cas, c'est néanmoins plus stimulant que de s'arrêter et d'aller mettre un préservatif.
Ben, c'est ce que j'allais dire.
Oui, mais voilà, c'est vrai que ça rejoint un peu la même idée. Donc, peut-être que c'est moi qui manque d'imagination pour entretenir un feu qui manque à ce moment-là. Mais c'est le côté jouet. En fait, je suis pas sextoy du tout. En fait, c'est plutôt ça le problème. Ah, c'est pas tant le cockring que, en soi, le sextoy, c'est pas mon truc. Et le deuxième point qui me dérange dans le cockring vibrant, c'est parce que j'ai essayé. Donc vraiment, je peux vous le dire concrètement, c'est des piles. Ça peut lâcher en cours de route. Et imaginez que vous êtes au climax de votre plaisir et au moment où ça va venir, eh ben il y a plus de piles, ça vibre plus. Et ben là, on se sent un peu idiot et c'est plutôt frustrant dans son plaisir. Donc non, moi je vote radicalement contre le cockring vibrant. Je n'en veux pas, Brigitte.
J'étais assez surprise parce que j'ai toujours eu plutôt des avis très favorables quand on les a fait tester aux hommes, aux femmes sur ce jouet. Et moi, c'est pareil, je suis assez contre. D'abord parce que je trouve que pour mettre le vibrant juste sur le clitoris tout en faisant des va-et-vient, J'ai pas encore rencontré l'homme qui est capable de ça, parce que ça touche, ça détouche, ça touche, ça détouche.
Par définition, ça bouge. Oui.
Ouais. Bah oui. voilà. Donc, il faudrait un homme qui soit capable. Enfin, je sais pas. Je vois pas très bien comment c'est possible. Donc moi, je vois pas trop non plus. Je suis pas trop fan. Si ce n'est le côté gadget marrant, parce que c'est un jouet qui amuse à la fois l'homme et la femme. Moi, j'aime bien le côté quand il y a le compteur, parce que là, c'est rigolo. Ça permet de s'amuser un petit peu. J'aime bien le cock-ring simple pour certains. Hommes que ça rassure.
Mais... Oui, puis ça peut même les aider vraiment. Hein,
oui. Mais sinon, attention, pas le garder plus de 20
minutes. Non, un quart d'heure, 20 minutes.
Qu'est-ce qui se passe sinon?
Ah bah sinon ça fait un garrot veineux et ça enfle et il y a un moment on peut plus l'enlever.
Ah c'était donc ça. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il devient tout bleu. Voilà. Je comprends.
Un schtroumpf.
Bah pour ma part moi non plus je suis pas très partisane. Je trouve qu'à limite ça peut être rigolo de tester dans un contexte de préliminaire. Voilà, peut-être voilà pour rire un petit peu, mais moi tout ce qui est un petit peu trop mécanique au niveau de la jouissance comme ça ça me casse quelque chose. Je trouve que ça casse finalement le rythme du duo qu'on a avec son partenaire.
Oui, si on est dans les préliminaires à ce moment-là, on peut le mettre sur le doigt. Pourquoi pas. Mais si on est dans l'acte sexuel proprement dit, on n'a plus besoin de cock-ring. De cock-ring vibrant ou alors un cock-ring si l'homme en a besoin.
Ouais, et puis voilà, comme s'il y a des dysfonctionnements, si ça s'arrête au climax, là, finalement, on finit par être dépendant de cet objet dans cette relation sexuelle-là. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ça gâche vraiment tout.
Ouais, mais... Bah oui, il faut la batterie à côté pour pouvoir le brancher en vitesse.
Un générateur.
Et je crois, vous me dites si je me trompe, Michel Chouma, je crois que les cock-rings, au départ, c'est les gays hein, qui ont inventé ça.
Enfin, oui, ils utilisaient ça, ils le mettaient, alors pas seulement autour de la verge, ils mettaient autour de la verge et des bourses.
Absolument.
Et c'était, je crois, en cuir au début.
Absolument, avec des pressions, les premiers, il me semble. Hein. Mm-hmm. Oui. Bon, ça s'est évidemment beaucoup amélioré depuis. Mais un petit cours d'histoire, de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Et puis on va se retrouver dans quelques instants, mais je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les infos du Lae Night Show sur la page Facebook ou sur le compte Twitter de Lae RMC. Et puis, écoutons Thomas, il va donner son point de vue sur la question de l'euthanasie. Et puis on écoutera également Laure qui avait évoqué ses difficultés de communication qu'elle avait avec les ados et c'était avec Robert Zwi.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lae Night Show.
Bonjour Brigitte, bonjour Robert.
Bonjour Laure.
Bonjour. Justement, je vais rebondir avec mon témoignage sur la colère.
Oui.
Donc, j'ai une fille qui a 15 ans. J'ai plusieurs enfants. J'en ai trois. Et celle de 15 ans et celle du milieu. Et effectivement, moi, je viens d'une époque, entre guillemets, où les sentiments et les émotions des enfants, c'était pas vraiment des choses que les parents comprenaient. On était gentils ou méchants. On faisait le bien ou le mal. Mais le ressenti, c'était pas trop là. Et ben justement, ma fille de 15 ans, c'est une ado rebelle et en colère. Mmh. Et ce que moi, le témoignage que je voudrais porter, c'est face à des enfants comme ça. Enfin, en tout cas, comment moi j'essaie de me situer quand elle est en colère pour pas moi rentrer dans la colère, comprendre ton émotion. Et quand je peux plus, ben j'essaye de mettre en place une chose, c'est je le prends pas pour moi.
Oui, voilà. C'est
un peu bizarre mon témoignage, mais c'est vrai que c'est difficile d'être à l'écoute des émotions des enfants, mais je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est ce qu'ils déclenchent chez nous comme émotion.
Et ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que vous témoignez, c'est justement la conscience que vous avez du lien à ne pas rompre avec l'enfant, même quand celui-ci génère chez nous de l'émotion qui pourrait nous donner envie de tout arrêter. Et vous avez raison de le préserver, mais rien ne vous empêche d'exprimer ça à votre enfant aussi. C'est-à-dire que vous avez l'autorisation, vous pouvez vous l'accorder, de lui dire voilà, là ce que je ressens moi, ça pourrait être ça et ça et ça, et ça n'est pas agréable, et donc je préfère que nous arrêtions là notre discussion et nous la reprendrons quand on aura réfléchi tous les deux. C'est quelque chose que vous pouvez faire, poser un cadre qui montre qu'il y a des exaltations émotionnelles que vous n'acceptez pas. Vous voyez, des choses qui vont s'exprimer, qui pourraient être des surenchères, et qui feront que nous serons dans un registre dysfonctionnel de l'émotion, et que vous n'avez pas envie.
C'est exactement ce que vous dites, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que face à ces crises de colère, ça montait aussi chez moi, et que ça n'arrangeait rien, et c'est vrai que J'ai compris qu'on ne faisait pas entendre raison à un adolescent en colère, en étant soi-même en colère. Alors là, ça ne marche pas. Et justement, c'est bien tout le contraire. Ça surenchérit. Puis moi aussi, je surenchérissais. Mais pouvoir après lui dire, ça, voilà. J'ai compris qu'il fallait quitter la discussion, ne pas le prendre pour moi, pour pouvoir revenir lui parler en lui parlant de ce que je ressentais, mais pas l'accuser. Parce qu'alors là, en plus, j'ai l'impression qu'il y a de la culpabilité en face, et puis bien moi, sûr. Ça me remet mal. Et voilà.
Et c'est intéressant, parce que c'est très souvent la tentation que nous avons. Comme nous ne savons pas parler de nos ressentis, nous avons très facilement la faculté d'aller vers le reproche. Il n'y a rien de pire que de faire des reproches à un enfant en lui disant, de toute façon, t'es incapable de m'entendre, tu prends tout mal, tu te vexes au premier mot de travers, c'est pas possible, quand tu auras grandi et quand tu seras plus mature, peut-être que je pourrai discuter avec toi. Évidemment que c'est tentant de le faire. Mais un enfant qui entend ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, ça sert à rien de discuter de toute façon. Et donc, vous êtes en train de rompre le lien. Je crois que Brigitte le disait bien tout à l'heure, en début d'émission. Ce qu'il y a au cœur de nos émotions, c'est la capacité à construire et à préserver le lien. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on est parent, c'est d'avoir cette conscience-là et de savoir se positionner dans ce que j'appelle une posture ressource. C'est-à-dire que le parent, il a un rôle de ressource vis-à-vis de ses enfants. Et ne pas prendre conscience et en compte ce registre émotionnel, c'est perdre potentiellement la lucidité qui nous permet de préserver cette fonction ressource, c'est-à-dire d'être au service de son enfant, de l'écouter. Et c'est sûr que si on est en colère, si on lui en veut, si on a le sentiment qu'il comprend rien, eh bien on sera pas dans cette posture ressource. Or, c'est ce dont il a besoin.
Et ce que vous pouvez faire aussi, Lara, qui sera intéressant pour vous en l'occurrence, c'est pourquoi ça vous met en colère quand votre fille est en colère.
Évidemment. Exactement.
Mais vous savez, il y a des pistes. Très simple pour ça, Lara. C'est que quelqu'un qui est en colère, il ressent une injustice. Et s'il ressent une injustice, il faut pouvoir nommer le préjudice. Donc je vous invite à faire un travail, même si c'est pas sur l'instant, qui est de dire quel est le préjudice que je subis. Est-ce que c'est qu'on me respecte pas en tant que parent parce que quand je dis quelque chose, je suis pas entendu? Est-ce que c'est qu'au fond, mon enfant peut-être me donne le sentiment de pas m'aimer ou de pas prendre en compte ce que je lui dis? Enfin voilà, mais il faut nommer le préjudice.
C'est exactement ce qui m'a amené à ma démarche de pas le prendre pour moi parce que je suis allée le creuser ça. Et ce que j'ai trouvé, c'est que je me sentais impuissante, je me sentais mauvaise mère, je me sentais coupable. Et du coup, ben voilà, j'essaie de m'en occuper à ma façon et avec de la thérapie à côté. Mais c'est voilà, bien sûr. Et le fait de pouvoir nommer ça, ça m'a permis de me dire, c'est pas contre moi. Voilà. Et ça me permet ce recul pour aller pour moi, puisque je voulais juste dire aussi, face à des enfants comme ça, parce qu'en plus je suis maman et puis elle est scolarisée, c'est le regard qu'ont ces adultes sur les enfants comme ça, qui sont en grande difficulté. Moi, j'ai envie de, ce que je dis souvent à ma fille Salomé, je lui dis, moi, je continue à te voir dans la réussite. Je doute pas une seconde, même si là tu te sens comme si, comme ça, moi je te vois dans la réussite. Et ce que je trouve troublant, là elle est en troisième, elle doit passer à autre chose en scolarité, c'est à combien les adultes condamnent des gamins comme ça parce que eux savent pas s'exprimer. Voilà, parce que eux-mêmes sont dans la violence, elle est avec moi, avec les autres adultes, et à quel point on l'a
cache. Oui, bien sûr, Lara, mais beaucoup d'adultes sont encore des enfants, donc il faut aussi être indulgent avec eux.
C'est Marguerite Duras qui disait, il y a toujours quelque chose de l'enfance, toujours,
ça,
et même
sûr.
Chez les grands hommes ou les grandes
femmes.
Même
chez les sages.
Et je trouve extrêmement important un point de ce que vient de dire Lara, c'est que dans ce que vous faites, vous préservez l'estime de soi, de votre enfant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort à préserver.
Merci beaucoup, Lara, de votre témoignage. Bonjour, Thomas.
Oui, bonjour, Thomas. Brigitte. Bonjour, Robert. Ben, moi, je suis totalement pour l'euthanasie. J'étais confronté au problème il y a 6-7 ans.
C'était pas la vôtre, hein, visiblement. Vous êtes toujours là.
Non, c'était pas la mienne. C'était celle de mon fils qui avait 11 ou 12 jours quand il a été euthanasié. Il allait être vraiment très, très malade toute sa vie. Enfin, il avait une nécrose de la matière blanche, pour ceux à qui ça parle. Et donc bon, c'est pas nous qui décidons, c'est les médecins. Mais moi, je pense que ça se serait très mal passé s'ils avaient été contre l'euthanasie, en fait, parce que bon, il allait être sous assistance respiratoire toute sa vie, aveugle, sourd.
Bien sûr.
En Enfin, et donc, pour moi, la proposition de loi qui est faite sur une sédation profonde et longue, c'est un bon pas en avant. Ceci dit, c'est toujours un maintien en vie. Et pour moi, bon, c'est il manque encore l'arrêt des soins qui va avec et l'arrêt de la nutrition qui va avec aussi, quoi.
Oui, mais voyez, votre cas, il est quand même très particulier. D'abord parce que c'était un être qui venait à peine d'essayer de vivre et qui n'était en effet guère viable, osons dire les choses. Parce qu'au fond, quand c'est des cas comme ça assez extrêmes, c'est, j'allais dire, plus facile de trancher. On est bien d'accord. Hein.
Mais quoi que.
Mais par contre, il est né, il n'y avait aucun problème. Hein, chose qui apparaît après.
Bien sûr, Thomas. Mais voyez, en revanche, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est que ça montre bien que la vraie question peut-être qu'il faudrait se poser, c'est à partir de quand on considère que l'être humain est en vie, est encore en vie ou n'est déjà plus en vie. Vous voyez, je crois que c'est peut-être, si on arrivait à déplacer légèrement le débat, on arriverait peut-être quand même un peu plus à avancer. Parce que ce terme euthanasie, moi je m'en méfie énormément parce que on peut avoir très vite envie d'euthanasier notre voisin parce que quelque part il nous dérange. Enfin, je fais exprès d'aller dans la caricature. Hein. Vous voyez, Thomas, c'est pour ça que je pense que c'est un vrai problème parce qu'avec les progrès de la médecine qui ne cessent d'être exponentiel, on va de plus en plus pouvoir garder des gens en vie qui ne seront peut-être plus vraiment en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je pense que c'est un vrai sujet, mais qui pour l'instant, moi c'est un peu ce qui m'agace, n'est absolument pas abordé sous le bon angle.
Je suis d'accord avec vous parce que bon, enfin si mon fils avait dû rester en vie, bon voilà, ça aurait été un légume, donc par conséquent oui, il n'aurait pas été en vie, quoi. Il aurait été vivant, si on veut.
Mais vous voyez, Thomas, excusez-moi, hein, mais vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Vous aviez un fils qui avait 10 jours, bon, à la limite, vous ne l'aviez pas encore tellement investi. Ça serait arrivé à votre gamin de
15 ans.
12 ans ou 15 ans. Peut-être que vous seriez acharné comme on en a vu en 2014, les parents qui se sont acharnés pour ne pas laisser leur enfant disparaître. Donc voyez bien que c'est un vrai sujet qui est à chaque fois très subjectif et je pense qu'on ne peut s'en sortir que si on pouvait définir ce qui est être en vie et ce qui est ne plus être en vie.
Oui,
voilà. Parce qu'à quoi ça rime aussi de garder des personnes.
Bien sûr, mais Brigitte, la question que vous posez, elle pose de toute manière, à mon sens, toujours matière à interprétation. Et comme chacun va construire un ressenti qui lui est particulier dans ce rapport à la mort, chacun va l'interpréter à sa manière. Et pour rassembler tout le monde autour de ça, c'est extrêmement complexe.
Il faudrait peut-être déjà faire tomber tous les lobbies médicaux et
oui, mais alors là, oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on veut? On veut une société meilleure ou on veut une société qui continue à ne penser qu'au profit? Silence radio. Bon. Je vais mettre le pied dans la fourmilière.
Non, mais c'est toujours compliqué de se dire quels moyens on a de lutter contre ça. Et c'est en conscience que chaque individu doit préparer ça. La question que vous posez nous interpelle tous individuellement sur la manière avec laquelle on réagirait soi-même pour soi si on était confronté à ça et qu'est-ce qu'on voudrait et qu'est-ce qu'on ne voudrait pas. Je pense que c'est à l'individu de fixer ses limites et à l'entourage de les accepter. Et peut-être que s'il y a ça qui est fait, on pourra respecter ce désir de l'individu lorsqu'il est confronté à cet instant ultime.
Oui, c'est un peu le propos de la DMD que vous êtes en train de donner. En tout cas, merci Thomas de nous avoir appelé. Votre cas, évidemment, montre bien à quel point les choses sont très compliquées. Et une fois n'est pas coutume, on va évoquer la cuisine, le repas idéal pour amoureux dans un instant.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Et pour être une bonne maîtresse, il faut peut-être aussi être une bonne cuisinière, parce que comme ça, on est sûr de garder son homme au chaud. Vous avez l'air d'être d'accord, hein, Michel Schumann.
Ben oui, surtout que chez moi, c'est plutôt moi qui fais la cuisine. Donc.
Ah, intéressant. Michel Schumann donc, est avec nous, Bénédicte Martin et Ariane Limosin nous tiennent également compagnie. Alors, le Love Coaching ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour un bon repas en amoureux, un repas vraiment romantique, hein, qu'on pourrait se préparer
Je pense qu'il faut, être assez technique, en fait. C'est, voilà, ne pas faire de plats chauds qui refroidissent. Quoi, voilà. Moi, c'est mon côté vraiment technique.
Oui, bien sûr.
Si on veut vraiment avoir un dîner romantique, ça veut dire que la discussion peut s'éterniser, qu'il peut y avoir des imprévus et tout ça. Donc, surveiller le four en même temps, je trouve que c'est pas possible. Donc, je suis plus pour.
Et pire, si c'est des choses qu'il faut faire à la poêle, là, ça devient carrément.
Disparaître en cuisine pendant un quart d'heure et laisser la personne toute seule. Non, moi, je pense que.
Non, il faut pas se tromper de poêle.
Sous forme de mésée, alors.
Voilà, des petites bouchées, des tapas, un petit peu, voilà, de grignoter un petit peu dans tous les coins. Je pense que c'est quelque chose de pas mal.
Pas de sauce non plus, je pense.
Ouais, non.
Mais c'est vrai qu'il faut voir le côté pratique, technique. Par exemple, faites pas des hamburgers, quoi. Le truc. Pas pratique à manger, ça va pas séduire votre partenaire, il y en a de partout qui coulent. Enfin, il faut pas non plus aller contre l'autre en lui faisant manger des trucs impossibles ou alors des plats beaucoup trop, des spécialités vraiment singulières.
Des escargots trop... à l'ail.
Il faut rester simple et classique, je pense, pour un repas réussi entre amoureux. Il faut privilégier aussi tout ce qui va autour du repas, c'est-à-dire le cadre. Pourquoi forcément être chez soi, assis l'un en face de l'autre, ça peut être un truc chouette, hein, bien sûr, ou au restaurant, bon voilà, les grands classiques, mais aller chercher peut-être un peu l'insolite, ça fait du bien aussi.
Peut-être dans la baignoire, ça peut être...
Pourquoi pas ? Non, mais dans les bois, par exemple, vous dites, tiens, surtout avec les beaux jours qui sont là, vous allez vous faire un pique-nique, il est 22h, à l'heure d'été, vous dînez, vous avez juste pris une nappe blanche que vous lancez...
Et un chandelier.
Et un chandelier, et vous faites plaisir, vous mangez, peu importe ce que vous mangez, somme toute, mais vous êtes juste dans un cadre déjà qui invite à la gourmandise et au plaisir de la chair à tous les auditeurs.
Moi je pense à un petit détail qui est facile à préparer et qui aura un petit aspect encore plus sympa, c'est d'écrire un menu avec des noms de plats déjà érotiques, quoi.
Ah oui,
ouais, c'est pas mal. Comme ça, vous faites déjà fonctionner l'imaginaire.
Une queue de homard.
Et vous lui envoyez le menu la veille.
Une bonne idée. Ça met en appétit, en effet. Ça.
Oui.
ou alors des noms très mystérieux. Il doit deviner. Ça doit être un jeu.
Pourquoi pas
ou les yeux fermés et éveiller les sens, par exemple. Ça peut être très érotisant également. Les yeux bandés.
Vous savez ce que c'est qu'une crevette?
Non, bien sûr que non.
C'est un petit animal qui sent le doigt.
Ça c'est
vraiment un peu violent. Vous avouez du romantisme, voilà.
J'avoue que là, j'ai pas tout à fait compris où était le romantisme de la crevette, mais bon.
C'était juste pour détourner un peu la conversation.
On peut manger du boudin ce soir aussi pendant qu'on.
Moi, j'allais partir sur le coulis de fraises, quelque chose de plus.
Voilà. Mais alors, aller dans les bois en ce moment, alors là, c'est un peu risqué. Il faut peut-être prendre des palmes quand même.
Oh, bah ça va, ça sèche là.
Oh là.
Bah pourtant, il faut plutôt être un peu humide, Ariane. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. De toute façon, on peut faire une terrine des terrines de poissons si on n'est pas sûr.
Il y a plein de choses.
C'est pas non plus le jour où il faut essayer une nouvelle recette
ni cuisiner des plats qui ont des mots à consonance étrange comme la morue, par exemple,
ou le thon. On est très dans le poisson là, mais cela dit, si il ou elle est fan de la mer, et on peut essayer de trouver une thématique qu'on décline.
Ariane, je suis sûre, vous penserez au rognon.
Non. Non, mais je pense qu'effectivement, des petites cassolettes, des petits plats picorés comme ça. Qui font un peu le tour du monde aussi. Voilà pourquoi ne pas tenter justement des plats exotiques, tendant justement à
mais si on peut manger avec les doigts, ça peut être sympa, à condition que ce soit pas trop gras, pas trop.
Non, pas des cuisses
de poulet. Vous avez dit pas trop de sauce.
Oui, c'est ça.
Mais ça, la sauce avec les doigts, ça va être compliqué. Oui.
Non, on peut même utiliser le corps de l'autre, pourquoi pas, pour finir en apothéose le dessert, avoir. Allez. Je vous mets en scène le truc, vous avez dans le nombril un peu de sucre, vous prenez vos fraises que vous trempez dedans, vous voyez, ça peut être ou autre part d'ailleurs.
Ah,
et voilà.
La goutte de cognac dans le nombril ou au creux des reins.
C'est merveilleux. Voilà, trouvez cette petite fantaisie finale qui peut être chouette. Mais encore faut-il le connaître un petit peu pour dîner. Je sais pas si c'est la première fois que vous le rencontrez, peut-être que
et
ça
puis
va un
si
peu.
Si vous êtes très goulu, il faut un gros nombril. Hein.
Sinon, ou deux nombrils, vous faites venir une copine.
Ah, moi, j'ai eu un amant qui versait du vin sur le dos. Pour le boire en dessous comme ça devant un feu de cheminée. Wow. C'était quelque chose, voilà. Bon. Il y avait de la tomate par terre, je précise, parce qu'il ne faut pas de la moquette.
Non, surtout de la moquette blanche. Blanc.
Non, non, non. Mais voilà, par exemple, le feu de cheminée incite aussi à enlever ses vêtements.
En mois de juin, le feu de cheminée...
Oui, bon... On est parti pour un été glacial peut-être, hein, je ne sais
non,
pas.
Non, mais le feu sur la plage, un feu comme ça. Ah, ça c'est
bon. En tout cas, vous l'avez compris, hein, toujours pareil, faire fonctionner votre imaginaire. Et puis on va écouter Élodie, dont le conjoint avait eu une histoire extra-conjugale sur son lieu de travail. Et puis tout de suite, c'est Pascal Neveu justement qui nous avait livré quelques conseils pour parvenir à créer un bon équilibre entre travail et vie de couple. Et tout ça en évitant évidemment les conflits.
Au début, on va lâcher son travail pour se voir, parce que voilà, on est totalement indissociable. Ça dépend des âges également.
Oui.
Quand on est jeune, bon, ensuite, il y a un investissement professionnel peut-être un petit peu plus important par rapport à une évolution professionnelle, et ça peut être fortement préjudiciable dans un couple. Quand on rentre à 22 heures, qu'en plus, il faut s'occuper des enfants, et que c'est plutôt et préférentiellement d'ailleurs la maman qui s'occupe des enfants, les crises, elles surgissent, mais très rapidement.
Alors, quelles sont les clés qu'on peut donner comme ça? Alors, déjà, peut-être communiquer assez rapidement, parce que si on laisse, si je puis dire, la colère monter, ça va exploser.
Il faut que l'autre soit conscient de l'investissement professionnel, des opportunités. Il ne faut pas non plus refuser une opportunité professionnelle, parce qu'on pourrait le reprocher à l'autre à un moment donné. Mais ensuite, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire que la vie, ce n'est pas uniquement le travail. On est dans une société actuellement où, malheureusement, on bosse de plus en plus. On nous demande de plus en plus d'investissements professionnels et je pense que ça retentit totalement sur le couple. Vous voyez les moyennes d'espérance de vie d'un couple qui diminuent d'année en année.
C'est vrai. Je crois qu'il faut aussi faire la différence entre le travail qui prend du temps parce qu'on aime son travail, etc. et le travail refuge pour fuir justement son couple.
Parfois, c'est le cas. C'est-à-dire que...
On rentre quand plus tard parce qu'on n'a pas envie de rentrer chez soi.
On n'a pas envie de rentrer chez soi parce qu'on n'a pas envie de gérer la crise des enfants ou d'autres crises également. Donc, on va rentrer à 22h. On va cacher certaines choses, des fausses réunions, des vœux entre amis, des collègues, etc. Et à un moment donné, tout cela se fissure.
Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à réagir. C'est Élodie qui est avec nous. Bonjour, Élodie.
Oui, bonjour.
Vous avez 36 ans.
Oui.
Et donc, votre mari a eu une relation aussi avec une collègue, c'est ça?
Exactement. Donc, mon mari travaille dans une société où il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop à mon goût, forcément. Et donc, effectivement, comme disait votre invité, ça a créé des tensions parce que forcément, moi aussi, je travaille beaucoup et je me retrouvais avec les enfants, les crises, les courses, la maison, enfin, tout ce qu'il y a. Et le soir, j'avais un mari qui rentrait épuisé, fatigué et qui supportait rien. En gros, c'était ça. Donc, je me suis fortement énervée et ça a créé une crise, on va dire, jusqu'au mois de juin où... donc, j'avoue que j'étais absolument immangeable. Il fallait pas me parler, je supportais plus... la moindre remarque devenait une crise énorme. Et au mois de juin, mon mari a eu un repas de travail à laquelle il rentrait très très tard. Et donc déjà, là, j'ai eu un petit doute quand même parce que 2h du matin, c'est quand même tard pour un repas de travail.
C'est vrai.
Voilà, quand même. Hein. Et les 2 jours qu'on suivit, mon mari a été d'une gentillesse comme il n'avait pas été depuis fort longtemps.
Ah, oh, c'est louche.
C'est louche. Et donc, moi, ça a créé... voilà, je me suis questionnée. Et un jour, il est sorti, il a laissé son portable. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché le portable et je suis tombée sur des messages.
Ah oui, c'est le vase de Pandore que vous avez ouvert.
Voilà, et où le soir-là, j'ai découvert, donc à savoir qu'en travaillant, il avait trouvé là-bas, comme il disait, une espèce de famille, des copains, une bande, dont une femme qui était toujours d'accord avec tout ce qu'il disait, qui trouvait tout ce qu'il faisait extraordinaire. Donc je pense qu'elle a doré son blason là où moi, j'avais tendance à le ternir.
Oui, vous l'aviez un peu égratigné, et comme tout mâle dominant alpha, il avait besoin de retrouver une admiratrice totale. Hein.
Donc là, il était tombé sur quelqu'un qui effectivement buvait ses paroles, riait à tout ce qui n'était pas drôle. Enfin, c'était donc la crise a été quand même compliquée parce que j'avoue que moi, ma fierté, on a pris un coup quand même parce que à savoir que cette femme n'était pas du tout dans son goût, n'était pas du tout dans ses critères. Donc je me suis remis en question très très fort quand même. Je suis redevenue femme, j'ai un petit peu laissé mon côté mère de côté, même si je suis toujours bien sûr une maman, mais j'ai réappris un petit peu à attirer son attention.
À être séduisante.
Et,
hein.
Voilà, je me suis transformée à nouveau et j'avoue que mon grand plaisir a été un repas de travail qu'on a fait récemment et où je suis arrivée en femme fatale, on va dire. Et j'étais tout à mon aise parce qu'effectivement, je me sentais pas coupable. Alors, peut-être à tort, hein, mais je me sentais pas coupable de la situation et j'avoue que tout ça a fait que du positif.
Oui, on voit que votre crise de couple, finalement, a renforcé le lien et surtout a été une prise de conscience de votre part. Et aujourd'hui, vous êtes arrivée en vainqueur, quoi, si je puis dire, à ce dîner.
Exactement, je suis arrivée en princesse, on va dire, et je n'avais aucune crainte de la rencontrer, aucune crainte de la voir. J'étais bien dans mes baskets et je me sentais totalement à mon mari. Voilà, je suis limite, on est redevenu comme on n'avait plus été depuis des années.
C'est ça, vous avez renoué avec ce que vous aviez vécu au tout début, tout ce qui est aspect séduction, etc.
Exactement.
Alors, pas forcément dans une dynamique de concurrence ou de compétition avec cette femme. C'est-à-dire que vous êtes représenté à votre mari tel que vous étiez. Donc il vous a reconnu celle qu'il avait aimée, celle dont il était tombé amoureux dans les premiers temps, dès les premiers jours. Vous avez adopté la bonne attitude. Le problème dans un couple, c'est le défaut de communication. Et quand on en arrive, malheureusement, et je comprends la logistique familiale qui vous a accaparé pendant un certain temps, quand on arrive simplement à se faire des reproches, il n'y a plus de communication, on ne parle plus d'amour, on est uniquement dans la haine.
Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il rentrait et il supportait plus les enfants, il supportait plus, et moi, ça me mettait hors de moi parce que moi j'avais pas d'autre choix que de gérer tout ça quoi. Et même si des fois moi aussi je supportais plus, il fallait, et c'est vrai que c'était des reproches en permanence maintenant, chose qu'il n'y a plus, et j'ai un mari qui travaille beaucoup moins, donc c'est extraordinaire.
Ah oui, donc tout a été transformé, changé, c'est bien, discours
totalement,
très positif.
Je veux dire, en quelques mois c'est redevenu vraiment très positif, très 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 positif.
Mais on voit que vous avez su, très justement d'ailleurs, ne pas la voir comme un danger pour votre couple et bien comprendre au fond qu'est-ce qui fait qu'il avait été séduit par cette femme qui n'était visiblement pas du tout son type de femme. Au fond,
j'ai eu quand même quelques mois. Hein,
j'imagine, non mais bien sûr.
J'étais à l'affût, j'étais limite pas sereine dans ma tête. Hein, pas dépressive, mais enfin un petit peu mal quand même. Hein, mais bon, après j'ai repris... J'ai repris le flambeau et maintenant c'est top, hein, on va dire.
Avec intelligence, vous avez su renouer avec les fondamentaux de votre couple, c'est-à-dire l'alchimie qui existait dès les débuts.
Oui, en fait, mon jeu, ça a été qu'il ait besoin de moi. Besoin de moi, pas dans le sens matériel, hein, mais voilà, des petits messages, des petits SMS, des petits... voilà.
Oui, faire attention à l'autre.
Il n'y avait plus. Voilà, exactement.
Penser à l'autre et lui signifier qu'on est ensemble, qu'on s'aime, etc.
Mais voyez, Elodie, votre témoignage est extrêmement positif et c'est formidable, hein, de commencer avec un témoignage aussi positif que le vôtre. Mais on voit bien comment, tout doucement, on glisse vers des critiques, vers trop de travail, vers et au fond, sans cet incident qui certainement a été douloureux pour vous, j'en doute pas.
Bah,
peut-être que vous seriez encore en train de vous critiquer, de vous disputer. Donc on voit bien qu'il faut parfois un électrochoc. Alors moi j'ai envie de dire, profitons aujourd'hui si c'est tous ceux qui nous écoutent pour que ce soit un électrochoc, pour pas arriver à des situations.
Il faut désamorcer, il faut enterrer l'âge de guerre très rapidement dans ces cas-là. Sinon le couple part en vrille et c'est la mort assurée, c'est le divorce assuré.
Et on se retrouve dans un instant pour notre Love Test de ce soir.
RMC, c'est le Lae Night Show.